France Culture.
C'est le journal de la rédaction tout de suite. Julie Paco, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Téhéran est le centre de l'Iran, secoué par de fortes déflagrations ces dernières heures. Après l'un des plus importants raids israéliens en 8 jours, l'armée israélienne dit avoir visé des cibles gouvernementales et des infrastructures militaires, tandis que des explosions ont également été entendues à Jérusalem ce matin. Le président iranien Massoud Pezeshkian rejette les appels à la capitulation et s'excuse auprès de ses voisins ce matin pour les frappes les ayant visées depuis une semaine. Des frappes qui ont contraint l'aéroport de Dubaï à suspendre temporairement ses opérations. En Iran, la population est aujourd'hui dans une situation intenable car le régime des mollahs tient et malgré la guerre, la répression ne faiblit pas. On en parlera en longueur avec notre invitée, Shirin Ardakani, présidente de l'association Iran Justice et avocate du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi. Israël a donc lancé une vague de frappes de grande ampleur sur Téhéran. Plusieurs infrastructures, notamment l'aéroport de Mehrabad, ont été visées, mais aussi plusieurs quartiers résidentiels. Des attaques ont également visé Ispahan, dans le centre de l'Iran. Bonjour Agathe Mahué.
Bonjour.
En direct de Tel Aviv avec Jérémy Tuil. Il s'agit là, Agathe, de l'un des plus importants raids annoncés par l'armée israélienne depuis le début du conflit.
Oui, avec 80 avions de chasse mobilisés la nuit dernière, l'armée de l'air israélienne a pilonné plusieurs cibles iraniennes, des sites militaires, dont une académie des gardiens de la Révolution, un centre de commandement et plusieurs sites de stockage et de lancement de missiles afin de réduire encore l'ampleur des tirs iraniens contre Israël et sa population. Cela en fait, dit l'armée, le deuxième raid en termes d'ampleur de l'histoire de l'aviation israélienne, qui avait déjà déployé 200 avions de chasse sur l'Iran il y a tout juste une semaine. Conséquence ces dernières heures de fortes explosions à Téhéran notamment, mais l'Iran n'a pas l'intention de se rendre, dit son président, alors que Donald Trump exigeait hier la capitulation du pays.
L'Iran qui, au contraire, Agathe, poursuit sa riposte.
Avec de nouveaux missiles lancés vers Israël ce matin, au moins 6 alertes anti-aériennes dans tout le pays ces dernières heures et des explosions entendues dans le ciel de Jérusalem dans la matinée une fois de plus. Mais la population ici continue de gagner les abris systématiquement. Il n'y a donc pas de nouveaux blessés, pas de victimes à ce stade. Et puis sur le front du nord, entre Israël et le Hezbollah, soutien de l'Iran, la milice chiite libanaise fait état de combat avec des soldats israéliens à la frontière, tandis que l'armée d'Israël a lourdement frappé hier le sud et l'est du Liban, faisant 16 morts, selon un dernier bilan des échanges de tirs qui se poursuivent sur cette frontière israélo-libanaise.
Agathe Mahué avec les moyens techniques de Jérémy Tuil. Au Liban donc, où les forces spéciales israéliennes disent avoir mené la nuit dernière une opération pour retrouver les restes de l'aviateur Ron Arad, capturé lors d'un raid aérien en 1986, opération qui a échoué. Aucun reste ou objet n'a été retrouvé, affirme l'armée israélienne, alors que le sort de Ron Arad préoccupe Israël depuis des décennies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle par ailleurs au respect de la sécurité des casques bleus déployés au Liban, alors que 3 d'entre eux ont été grièvement blessés hier lors d'échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Alors on l'entendait, Agathe nous le disait, le président iranien Massoud Pezeshkian a pris la parole ce matin à la télévision d'État et promis que son pays ne se rendra pas. Plus étonnant, il s'est excusé auprès de ses voisins du Golfe pour les frappes les ayant visées depuis le début du conflit, au cours desquelles 13 personnes ont été tuées, dont une fillette de 11 ans au Koweït. « Ce n'est pas vous que nous visions, mais les bases américaines sur votre sol », a justifié Massoud Pezeshkian. Flore Catala, l'Iran semble donc vouloir calmer le jeu avec ses voisins de la péninsule arabique.
Nous n'avons aucune intention de faire la guerre aux pays voisins. Ce sont nos frères. Voilà les mots du président iranien en forme d'excuses et de main tendue vers la péninsule arabique avec une promesse de mettre fin aux frappes sous condition.
Le conseil de direction provisoire a décidé qu'il n'y aurait plus d'attaques sur les pays voisins. Plus de missiles tirés, sauf si une attaque sur l'Iran provenait de ces pays.
C'est à cause des bases américaines sur leur sol que l'Iran frappe les pays du Golfe. Ne collaborez plus avec les États-Unis et Israël et vous serez épargnés. Voilà en substance le message que le président iranien veut faire passer.
Nous pouvons avoir des divergences, des griefs, mais soutenir Israël qui commet un génocide et l'Amérique qui se livre à l'intimidation est un déshonneur.
avec aussi une adresse directe à ceux qui sont considérés comme les vrais ennemis de l'Iran, américains et israéliens.
Les ennemis peuvent emporter dans leur tombe leur souhait de voir le peuple iranien se rendre.
Une réponse à Donald Trump qui avait appelé hier à une capitulation de l'Iran pour mettre fin à la guerre.
Flore Catala, ces frappes iraniennes ont notamment touché Dubaï. L'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde, a été partiellement fermé ce matin à la suite d'une interception d'un missile en provenance de l'Iran. La compagnie Emirates, qui assurait encore quelques liaisons vers les capitales européennes, a suspendu temporairement ses vols au départ et à destination de l'Émirat. C'est donc un nouveau contretemps à l'évacuation des ressortissants européens et des touristes. Reportage de nos envoyés spéciaux Isabelle Labéry et Gilles Gallinaro.
Le bruit des interceptions de missiles, les alertes sur les téléphones portables, Jacques ne les supporte plus.
C'est très difficile, je suis perdu, j'en peux plus madame, j'en peux plus.
Et je paye les chambres, je paye. Ma femme elle a plus de cachet pour la thyroïde. Que le gouvernement il vient nous chercher purée. Il faut arrêter de faire le beau à la télé. Nous, ce qu'on veut, on veut partir d'ici.
À force d'insister au téléphone, Alison, qui a voyagé sur Emirates, a fini par décrocher un vol retour mercredi.
Donc il nous pose à Zurich et après, débrouillez-vous. Et on reprend un vol le lendemain, Zurich-Paris. 1600 balles à 4.
Partir plus tôt et plus vite, hier c'était encore possible, mais beaucoup plus cher.
Et là, on nous a demandé 26 000 euros pour 4. Pour rentrer en vol direct. C'est de la folie.
En t-shirt et bermuda, Jean-Pierre, patron d'une entreprise de bâtiments dans le Val d'Oise, a encore du mal à réaliser.
Franchement, on n'est pas forcément aidé. En plus de ça, on se bagarre pour prendre un vol et on n'est pas sûr de l'avoir. Et en plus de ça, on n'atterrit pas chez nous. Mais c'est vrai, c'est chelou quand même.
C'est surtout la conséquence d'une guerre qui, même de loin, fait désormais partie de leur quotidien.
Toutes les annonces, ne pas nous approcher des fenêtres... Descendre dans les sous-sols quand il y a les alertes sur les téléphones, ça sonne vraiment extrêmement fort. Enfin, on s'y est entre guillemets habitué, on voit que c'est maîtrisé, on n'a pas peur pour notre vie, on a juste envie de rentrer.
Alison jette un œil à ses deux fils de 8 et 10 ans. Il nous faudra peut-être 2 ou 3 séances de psy, dit-elle, pour faire passer ses mauvais souvenirs.
Isabelle Labéry avec Gilles Gallinaro et les Émirats affirment à l'instant avoir intercepté aujourd'hui 15 missiles balistiques et 119 drones. Alors cette guerre, subie de loin, on l'entendait par les ressortissants étrangers, prend une toute autre réalité pour les Iraniens. Une réalité intenable, sans possibilité de fuir. Pris en étau entre la répression du régime et le risque de mourir sous des bombes étrangères. Que dire alors des prisonniers politiques? Bonjour Chirine Ardakhani.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association Iran Justice, avocate du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, condamnée le 8 février dernier, on le rappelle, à 6 ans de prison. Alors, quelles nouvelles vous avez de votre cliente depuis une semaine ?
Hélas, comme beaucoup d'Iraniens, je n'ai pas pu m'entretenir avec Narges Mohammadi pour deux raisons. La première, c'est que elle avait auparavant, avant la guerre, une interdiction d'entrer en contact avec qui que ce soit, y compris de ses avocats iraniens, mais parce que le régime iranien a, depuis le début de la guerre, coupé les communications, de sorte que eh bien, ce sont des millions d'Iraniens, dont Narges Mohammadi en particulier, qui sont coupés du monde extérieur. Voilà, donc je la sais aujourd'hui prise véritablement en tenaille entre, vous l'avez dit, d'une part la répression du régime et d'autre part les bombes de l'étranger.
Et plus globalement, quelle est la situation aujourd'hui dans les prisons iraniennes, celle de Zanjan où est emprisonnée Narges Mohammadi, dans la prison d'Evin aussi? Est-ce que vous redoutez des exécutions accélérées?
Oui, tout à fait. Les prisons politiques du pays, en fait, sont composées de milliers de dissidents, des intellectuels, des mouvements féministes, des enseignants et qui déjà se battent chaque jour contre la République islamique. Et il faut comprendre que en période de guerre, non seulement les infrastructures militaires qui sont partout avoisinantes de ces prisons sont visées, donc nous savons que ils risquent eux, comme c'était le cas en juin 2025, lorsque l'État d'Israël et les Américains avaient bombardé la prison politique d'Evin, où se trouvaient d'ailleurs deux de nos ressortissants, Cécile Kohler et Jacques Paris. Et bien désormais, nous savons que les prisons politiques sont livrées à elles-mêmes, les détenus sont éloignés de tout parce que les forces spéciales, par exemple à la prison d'Evin, ont dû reprendre le contrôle après que les administratifs pénitentiaires aient eu peur et laissé les prisons totalement vidées de l'administration. Et donc on sait que c'est ces forces spéciales qui sont les plus violentes aujourd'hui qui sont dans les prisons, laissant les prisonniers en proie à des des exécutions extrajudiciaires qui pourraient reprendre à tout moment.
Alors ces frappes sont censées aider les Iraniens à se libérer, c'est l'objectif affiché en tout cas, mais dans le même temps, le régime iranien semble toujours tenir, la répression se poursuit, vous le dites. Est-ce que ces frappes sont vaines ?
Ces frappes, elles sont évidemment vaines dans la mesure où on a vu Khamenei, l'ayatollah, a été illégalement assassiné par ces frappes. Nul, évidemment, ne le regrette, mais toujours est-il qu'il y a de nouveaux Khamenei chaque jour, puisque sa succession aujourd'hui semble être faite. Ce serait vraisemblablement, ce n'est pas encore certain, mais son fils, Mojtaba Khamenei, qui prendrait sa suite. Et au fond, ce régime ne sera évidemment pas décapité par les frappes, puisque c'est un système politique qui tient par son bras militarisé, qui tient par l'idéologie fanatique qui est celle de la République islamique d'Iran. Et il serait évidemment vain d'estimer que c'est par les bombes, indépendamment des raisons qui sont affichées d'ailleurs par Donald Trump et par Netanyahou, qui disent vouloir libérer le peuple iranien, ce que évidemment on peut contester et qui ne semble pas être le sort de la volonté de ces deux chefs de guerre. Mais toujours est-il que ce serait évidemment vain, alors que nous voyons par ailleurs que les Iraniens continuent d'être réprimés. À l'heure où je vous parle, par exemple, il y a de nouveau dans les rues des processions de ces gardiens de la révolution qui vont terroriser la population. Il y a une traque contre tous ceux qui refusent d'ailleurs d'embrasser la propagande de guerre du régime iranien. Et donc, on voit que les Iraniens, en réalité, sont bien seuls et qu'ils ne peuvent rien attendre d'une communauté internationale qui, malheureusement, les a abandonnés de nouveau.
Shirin Ardakhani, parmi les nombreuses victimes aussi depuis 8 jours, il y a le droit international bafoué par les États-Unis et Israël. Vous en appelez aujourd'hui au droit humanitaire.
Oui, parce que malheureusement, cette guerre qui est une guerre illégale, qui a fait des civils, des morts parmi les civils, y compris d'ailleurs ailleurs qu'en Iran, on en a au Liban aujourd'hui, où les populations civiles aussi payent le prix de cette guerre, il y en a eu en Israël. Aujourd'hui, j'en appelle évidemment à ce que le droit humanitaire qui s'impose fasse que nous portions secours et assistance aux personnes qui sont détenues, les prisonniers politiques, aux populations civiles qui doivent être protégées. Il faut acheminer des vivres, parce que les Iraniens, dans quelques jours, si la guerre se poursuit, vont manquer de tout. Il faut acheminer des médicaments et voire même, dans le cadre des institutions internationales qui aujourd'hui ne sont pas encore mortes, il faudra s'interroger sur le fait de savoir si des forces de maintien de la paix uniquement à un moment donné devront être déployées pour éviter les transferts forcés de population et aussi pour protéger ces civils qui sont en proie aux attaques de toutes parts.
C'est entendu. Merci beaucoup Shirin Ardakhani, avocate de Narges Mohammadi, présidente de l'association Iran Justice. Et merci également à Louise Guérin pour la préparation. C'est un état d'urgence déclenché par la Fondation de la mer pour sauver les herbiers marins, ces prairies sous-marines qui poussent des fleurs aquatiques. En un peu plus d'un siècle, un tiers des herbiers marins de nos océans ont disparu. Ils sont pourtant essentiels au bon fonctionnement de nos océans. Ils abritent des dizaines d'espèces qui, à leur tour, se retrouvent menacées. En Méditerranée, par exemple, ils abritent 20% de la biodiversité. Paul Tillet, la Fondation de la mer, lance donc cette alerte pour sensibiliser le grand public à l'importance de ces herbiers marins.
On les appelle les prairies bleues, où coexistent poissons, coquillages, tortues et plancton. Mais toutes les 30 minutes, l'équivalent d'un terrain de foot d'herbiers marins disparaît. Anaïs Massé est océanographe à la Fondation de la mer.
Les menaces quand même, c'est la dégradation de la qualité des eaux côtières, la destruction via l'ancrage des bateaux qui arrachent les plants d'herbiers de Posidonie, l'urbanisation côtière et surtout le changement climatique aussi.
Ces écosystèmes sont pourtant indispensables aux océans.
Ils ont plusieurs rôles. Ils participent notamment à la séquestration du carbone. Ils protègent les littoraux contre l'érosion côtière. Ils abritent également une forte biodiversité. Il joue un rôle de nurserie pour de nombreuses espèces, donc il y a vraiment une importance de protéger ces habitats.
Ils réduisent aussi la houle, très important en cas de tempête. Depuis 4 ans, la Fondation de la mer a lancé un programme de sauvegarde.
On a des actions de restauration de ces herbiers en collectant des fragments qui se sont détachés naturellement, soit via l'ancrage ou via les tempêtes. Et le but, c'est d'aller replanter ces fragments sur des sites dégradés.
Et la France a un rôle à jouer dans leur protection, insiste la Fondation de la mer. Les herbiers marins français s'étendent sur plus de 2000 km², principalement au large des côtes des territoires d'outre-mer comme la Nouvelle-Calédonie.
Paul Tillet, le temps cet après-midi restera perturbé sur l'ouest et le sud du pays avec des ondées attendues sur le nord-ouest, le Languedoc et le pourtour méditerranéen. Des ondées qui virent à l'orage sur le Limousin, la Touraine et le Poitou. Le temps sera plus agréable de la Normandie aux frontières de l'Est. Quant aux températures, elles affichent 12 à 15 degrés près de la Manche, 13 à 17 près de la Méditerranée et 17 à 20 degrés sur le reste du pays. C'est la fin de ce journal préparé avec Alix Forgeau et Alexandre Dang à la technique.